Chers auditeurs, bonjour. Nous continuons cette série très importante concernant Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Nous sommes à l'étude numéro 9 et le titre c'est « La sagesse de Dieu et la nôtre ». Lorsque les théologiens de la Réforme parlaient des attributs de Dieu, ils avaient coutume de les répartir entre deux groupes, les attributs intransmissibles et les attributs transmissibles. Ils mettaient dans le premier groupe les qualités de Dieu qui révèlent nettement son caractère absolument transcendant et qui montre à quel point il est différent de nous, ses créatures. La liste de ses qualités était en général la suivante. Indépendance, Dieu est sa propre origine, et il se suffit donc à lui-même. Immutabilité, Dieu est absolument exempt de toute trace de changement, ce qui explique la parfaite cohérence de son action. Infinité. Dieu ne connaît aucune des limites qu'impose à ses créatures le temps et l'espace. Autrement dit, Dieu est à la fois éternel et omniprésent. Simplicité. Il n'y a en Dieu aucun élément susceptible d'entrer en conflit avec un autre, en sorte que, contrairement à l'homme, Dieu ne peut être tiraillé entre des pensées ou des désirs contradictoires. Les théologiens donnaient à ces attributs le nom d'attributs intransmissibles, parce qu'ils sont propres à Dieu et à lui seul. Dans le second groupe, les théologiens associaient des perfections divines telles que la spiritualité, la liberté et l'omnipotence à l'ensemble des attributs moraux de Dieu, tels que par exemple la bonté, la vérité, la sainteté, la justice, etc. Donc, cette classification était établie selon le critère suivant. Les qualités qui faisaient partie du second groupe étaient celles que Dieu communiqua à l'homme au moment de sa création. La Bible elle-même le dit lorsqu'elle nous rapporte que Dieu fit l'homme à son image. Selon la Genèse, chapitre 1, verset 26. C'est-à-dire spirituellement libre, moralement responsable, parce que capable de faire des choix et d'agir, de communiquer avec Dieu et de lui obéir. Oui, et être bon, fiable, saint et droit. Par nature. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29. Il faudrait pouvoir répéter cette phrase. Il y a des phrases que nous devons bien comprendre. Donc, je dis encore une fois, Dieu, il a fait l'homme à son image. Selon la Genèse, chapitre 1, verset 26, évidemment, l'homme a commis le péché dès le début, et donc il ne pouvait plus être exactement comme Dieu aurait voulu qu'il soit. Alors, Dieu l'a quand même maintenu à un niveau acceptable, c'est-à-dire spirituellement libre, moralement responsable, parce que capable de faire des choix et d'agir, de communiquer exactement avec Dieu et de lui obéir sur tout, être bon si possible, fiable, saint et droit, en un mot, semblable à Dieu. Alors, les qualités morales qui étaient celles de l'homme, fait, comme vous le savez, à l'image de Dieu, disparurent lors de la chute. L'image de Dieu s'effaça alors chez tous les hommes, car c'est l'humanité tout entière qui, à ce moment précis, bascula d'une manière ou d'une autre dans l'impiété. Mais la Bible nous dit que pour réaliser son plan de rédemption, Dieu aujourd'hui est à l'œuvre, agissant dans la vie de chaque croyant pour restaurer en lui cette image détruite qui est détruite en lui par sa faute, et ainsi de pouvoir communiquer à nouveau avec ses qualités diverses. C'est ce que signifie le texte qui parle des chrétiens qui sont transformés. Transformés pour être rendus semblables au Seigneur. Selon 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, et semblables à Dieu, Colossiens, chapitre 3, verset 10. N'importe qui peut comprendre que ceux qui sont fiers d'être athées, homo et tout le reste, cela va difficilement les concerner. Donc, au nombre de ces attributs transmissibles, les théologiens mettent aussi la sagesse. Dieu, qui est sagesse en lui-même, communique la sagesse aux hommes. La Bible revient souvent sur ce don divin de la sagesse. Les 9 premiers chapitres du livre des Proverbes, par exemple, ne sont qu'une seule et même exhortation pressante à rechercher ce don-là. Voici le commencement de la sagesse, nous dit « Acquière la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquière l'intelligence. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. » Proverbes chapitre 3, verset 7 et le verset 13. La sagesse est ici personnifiée et parle en sa faveur. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi, qui pêche nuit, il nuit à son âme. Et tous ceux qui me haïssent, évidemment, sans peut-être trop être en train de le réaliser, eh bien, malheureusement, il semble qu'ils aiment plutôt la mort, selon le Proverbe, chapitre 8, verset 34. Jouons le rôle d'une hôtesse. La sagesse invite à son banquet tous les nécessiteux. Que celui qui est stupide entre ici, Proverbe 9, verset 4. Dans chacun de ces passages, comme dans tous les autres traitant du même sujet, l'accent est mis sur le fait que Dieu, il est vraiment prêt à faire don de la sagesse qui est décrite dans le texte des Proverbes comme étant prête à se donner, oui, à se donner à tous ceux qui la désirent et qui sont disposés à faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Le même accent se retrouve dans le Nouveau Testament. La sagesse est une qualité que les chrétiens doivent posséder. Conduisez-vous non comme des insensés, mais comme des sages. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Colossiens 4, verset 5. Et l'apôtre Paul prie pour que les chrétiens en soient pourvus. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse. Colossiens 1, verset 9. Et Jacques, lui, il fait au nom de Dieu la promesse suivante. Il dit, « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, eh bien, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. » Jacques, chapitre 1, verset 5. Alors, d'où vient la sagesse? Que faut-il faire pour s'approprier ce don? L'Écriture sainte pose deux conditions préalables à sa réception. D'abord, il faut apprendre à craindre Dieu. Ça, c'est très important, de craindre Dieu. Ça n'a rien à faire avec avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Psaume 111, verset 10. Vous pouvez ajouter le Proverbe chapitre 9, verset 10, et Job verset 28, chapitre 28, verset 28, et Proverbe chapitre 1, verset 7, chapitre 15, verset 33. On a bien compris, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Réfléchissons bien sur cette phrase, car elle est importante. La sagesse ne pourra nous appartenir tant que nous ne serons pas devenus humbles et dociles, et que nous soyons devenus remplis de crainte devant la sainteté et la souveraineté de Dieu. Oui, le Dieu grand et redoutable, nous est-il dit dans Néhémie, chapitre 1, verset 5, chapitre 4, verset 14, et vous avez le Deutéronome, au chapitre 7, verset 21, chapitre 10, verset 17 de Deutéronome, et nous passons au psaume 99, verset 3, et nous terminons par Jérémie, chapitre 20, verset 11. Donc, nous devons être conscients de notre petitesse, méfiant vis-à-vis de nos propres pensées, et je parle pour moi-même, et prêt à accepter un bouleversement total de nos idées. Il est à craindre que bien des chrétiens demeurent toute leur vie dans une disposition d'esprit si orgueilleuse et si dépourvue d'humilité que la sagesse qui vient de Dieu leur soit à jamais inaccessible. Ce n'est pas pour rien que l'Écriture sainte dit que la sagesse est avec les humbles. Proverbe chapitre 11, verset 2. Ensuite, il faut apprendre à accepter ce que dit la sainte parole de Dieu. Dieu accorde la sagesse à ceux, mais à ceux-là seuls qui sont attachés à la révélation divine. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, déclare le psalmiste. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Pourquoi cela? car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Psaume, chapitre 119, verset 99. Saint Paul, quant à lui, exhortait toujours les Colossiens en ces termes. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, et cela en toute sagesse. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que devons-nous faire, nous, hommes et femmes du XXe siècle? Nous devons sonder les saintes Écritures, lesquelles, comme le disait l'apôtre Paul à Timothée, peuvent te rendre sage à salut, et cela par la foi en Jésus-Christ, et préparer ainsi l'homme de Dieu à accomplir toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 17. Évidemment, vous allez me dire, avec tous les gadgets, toutes ces gadgets électroniques d'aujourd'hui, où il y en a toutes les semaines un nouveau gadget, il n'y a que les carmélites ou les moines qui ont cette possibilité. Mais c'est à nous de faire le choix de ce que nous voulons, voyez-vous. C'est un choix. Oui. Par contre, voyez-vous, c'est une totale erreur. Une erreur de croire que le don de la sagesse permet à celui qui le reçoit de pénétrer davantage le sens et la raison des événements qui se déroulent autour de lui ou qu'il ou elle le rend capable de savoir pourquoi Dieu a fait ce qu'il a fait dans tel cas particulier et ce qu'il fera ensuite. En général, les gens ont l'impression que s'ils marchaient vraiment tout près de Dieu, si près que Dieu pourrait librement leur dispenser la sagesse, ce serait un peu comme pour eux, s'ils se trouvaient à l'intérieur du poste d'aiguillage. Ils pourraient alors connaître la véritable raison de tout ce qui leur arrive et ainsi savoir à tout moment comment Dieu fait concourir toutes choses pour leur bien. Ces gens-là passent beaucoup de temps plongés dans l'étude du livre de la Providence et à se demander pourquoi Dieu a permis tel ou tel événement, s'ils doivent y avoir ou y voir surtout un signe de leur qui pourrait par exemple leur indiquer qu'il leur faut peut-être renoncer à telle ou telle activité pour se consacrer à telle autre activité. Et ce qu'ils doivent en déduire, voyez-vous, s'ils ne parviennent pas à trouver de réponse, alors ils attribuent leur échec à leur manque de spiritualité. Donc, les chrétiens qui souffrent de dépression physique, mentale, ou spirituel. Notez bien qu'il s'agit de trois choses bien différentes. Je répète, la dépression physique, la dépression mentale ou la dépression spirituelle, ce sont trois choses. Ils peuvent en arriver à se rendre fou avec ce genre de vaines recherches. Car voyez-vous, ces recherches sont souvent vaines. Cela ne doit pas faire aucun doute. Il est vrai que si Dieu nous a laissé une règle de conduite qui consiste à mettre en pratique les principes qu'il nous a donnés, il peut arriver qu'il nous la confirme par des signes providentiels occasionnels que nous identifierons immédiatement comme autant de confirmations de ce que nous pensions. Mais, c'est une toute autre chose que d'essayer de discerner dans tout ce qui nous arrive, d'un peu inhabituel dans la vie, que ce soit un message ayant trait au dessein secret de Dieu. Et c'est pourquoi, loin de conférer ce genre de pouvoir, le don de la sagesse présuppose, en réalité, notre aveu d'incapacité à l'exercer. C'est ce que nous allons voir maintenant, car tout cela n'est pas automatique. Voyez-vous, posons-nous à nouveau la question. Qu'est-ce que cela signifie pour Dieu de nous accorder la sagesse? De quel genre de don s'agit-il? Si vous me permettez d'employer un autre exemple emprunté au domaine des transports, je comparerai ce don à une leçon de conduite. Ce qui compte au volant, c'est la rapidité et la précision des réflexes ainsi que la sûreté du jugement que l'on est amené à exercer dans une situation donnée. Car lorsque vous conduisez, vous ne passez pas votre temps à vous demander pourquoi la route est si étroite ou sinueuse, pourquoi tel camion se trouve garé ici plutôt que là, pourquoi cette dame ou ce monsieur qui vous précède tient avec tant de persévérance le milieu de la route. Ce qui compte pour vous, c'est de trouver la meilleure façon de faire face à la situation qui est la vôtre et d'agir en conséquence. Je pense que nous comprenons tous cela. Et c'est exactement ce que la sagesse divine nous rend capable d'accomplir dans la vie de tous les jours. Pour bien conduire, il faut garder les yeux grands ouverts si l'on veut savoir exactement ce qu'il y a devant soi. De même, pour vivre sagement, il faut regarder la vie en face avec clairvoyance et réalisme, sans la moindre complaisance. Voyez-vous, la sagesse ne s'accommode pas d'illusions rassurantes, de sentiments factices, ou même, pourquoi pas, de lunettes roses. Nous vivons, pour la plupart d'entre nous, dans un monde de rêves, la tête dans les nuages et les pieds n'importe où, mais surtout pas sur terre. Nous ne voyons donc pas le monde, ni notre vie dans ce monde tels qu'ils sont en réalité. Cet irréalisme qui nous caractérise et qui est une des façons dont le péché se manifeste en nous constitue l'une des raisons pour lesquelles il y a si peu de sagesse parmi nous, même parmi les plus fidèles et les plus orthodoxes d'entre nous. Il faut plus qu'une saine doctrine pour nous en guérir. Il y a cependant dans l'Écriture sainte un livre dont le but est de faire de nous des hommes et des femmes réalistes. C'est le livre de l'Ecclésiaste. Nous aurions bien besoin d'accorder à son message un peu plus d'attention que nous ne lui en accordons généralement. Il y en a même qui l'ouvrent jamais. Prenons le temps maintenant de considérer ensemble quelques points de son message. L'Ecclésiaste signifie simplement le prédicateur. Et le livre qui porte ce titre n'est rien d'autre qu'un sermon, dans lequel il est possible de repérer un texte, Vanité des vanités, chapitre 1, verset 2, chapitre 12, verset 8. L'expression du thème traité est une application. Une bonne partie de l'exposé a un caractère autobiographique. Le prédicateur, il se présente comme le fils de David, roi de Jérusalem. Chapitre 1, verset 1. Cela signifie-t-il que le prédicateur n'était autre que Salomon en personne, ou que suivant un procédé didactique, il a attribué son message à Salomon, comme l'ont soutenu des érudits aussi conservateurs que Hengstenberg et Ige Jung. Mais peu nous importe. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce sermon contient un certain nombre de leçons que Salomon fut particulièrement bien placé pour apprendre. Vanité des vanités, dit le prédicateur. Vanité des vanités, tout est vanité. Dans quel esprit est en quel but le prédicateur annonce-t-il ce texte? Est-ce là la confession de quelque cynique aigri, d'un vieil homme du monde, égoïste et endurci, qui, parce qu'il n'a connu pour finir qu'un sinistre désenchantement, cherche à nous faire partager sa conviction que la vie ne vaut pas grand-chose et qu'elle est même franchement détestable. Ou est-ce plutôt l'appel d'un évangéliste qui tente de faire comprendre à l'incrédule qu'il ne peut trouver de bonheur sous le ciel que seul en Dieu. Pour ma part, je dirais que ce n'est ni l'un ni l'autre, encore que la seconde suggestion soit plus proche de la vérité que la première. L'auteur s'exprime à la manière d'un maître d'âge mûr qui ferait part à un jeune disciple du fruit de sa longue expérience et de toutes ses réflexions. Chapitre 11, verset 9, chapitre 12, verset 1 et le verset 12. Ce qu'il veut, c'est mener son élève à la véritable sagesse et lui éviter l'erreur du poste d'aiguillage. Apparemment, ce jeune homme, comme beaucoup d'autres depuis, avait tendance à confondre sagesse et connaissance, et il a supposé qu'il suffisait, pour acquérir la sagesse, de fréquenter assidûment les livres. Chapitre 12, verset 12. Il est donc clair qu'il tenait pour assuré le fait que, une fois acquis, la sagesse lui permettrait de connaître les raisons de tous les agissements divins. Chers auditeurs, retirez vos lunettes roses et frottez-vous les yeux et regardez-le attentivement. Prenez votre temps. Que voyez-vous? Vous voyez la vie soumise au renouvellement aveugle des cycles de la nature. Chapitre 1, verset 4. Vous le voyez conditionné par le temps et par des circonstances sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Chapitre 3, verset 1 et chapitre 9, verset 11. Vous voyez la mort surprendre tôt ou tard chaque homme, frappant au hasard, sans tenir compte des mérites ou de l'indignité de celui qu'elle frappe. Chapitre 7, verset 15 et le chapitre 8, verset 8. Les hommes meurent comme des bêtes. Chapitre 3, verset 19. Les bons comme les méchants, les sages comme les insensés. Chapitre 2, verset 14 et chapitre 17. Non, chapitre 2, verset 14 et le verset 17. Ensuite, vous pouvez noter le chapitre 9, verset 2. Vous voyez, le mal, il prospère, et nous le voyons prospérer autour de nous. Chapitre 3, verset 16. Chapitre 4, verset 1. Et vous voyez les méchants qui souvent réussissent, mais les justes assez peu ou pas souvent. Chapitre 8, verset 14. Et devant tout cela, vous prenez conscience que la façon dont Dieu dirige les événements est totalement impénétrable. Quel que soit votre désir d'y comprendre quelque chose, vous n'y parvenez pas. Chapitre 3, verset 11. Chapitre 7, verset 13. Chapitre 8, verset 17, et le chapitre 11, verset 5. Donc, plus vous vous efforcerez de saisir le dessein de Dieu en observant le cours des événements, plus vous serez obsédé et écrasé par l'apparente inanité de toute chose. Et plus vous serez tenté de conclure que la vie est effectivement aussi vaine et inutile qu'elle en a l'air. Mais, une fois arrivé à cette conclusion, que la vie n'a ni rime ni raison, quel intérêt trouverez-vous alors à vous lancer dans une quelconque entreprise constructive? Qui gagnerez-vous? Pourquoi donc, et dans quel but, le feriez-vous? Si la vie n'a pas de sens, elle n'a pas non plus de valeur. Et si elle n'a pas de valeur, pourquoi s'efforcer de faire quelque chose, de monter une affaire, de gagner de l'argent, ou même de rechercher la sagesse, puisque rien de tout cela ne peut vous être d'un profit quelconque. Chapitre 2, verset 15, verset 16, les versets 22 et le verset 23, j'ai dit du chapitre 2. Tout au plus, deviendrez-vous un objet d'envie. Chapitre 4, verset 4. Vous ne pourrez rien amener avec vous. Chapitre 2, verset 18. Chapitre 4, verset 8. Même pas votre Lamborghini ou votre Bentley. Et ce que vous laisserez derrière vous sera probablement détruit après votre départ. Chapitre 2, verset 19. Alors à quoi bon transpirer et travailler dur? Ne peut-on pas, à juste titre, estimer que tout le travail des hommes n'est que vanité, néant et frustration, et Poursuite du vent, chapitre 1, verset 14. Une activité qui ne se justifie ni par sa valeur, ni par ce qu'elle vous apporte. Le prédicateur nous avertit. C'est à cette conclusion pessimiste qu'aboutira finalement celui qui, plein d'espoir et d'optimisme, cherchera à découvrir le dessein de Dieu en toutes choses. Et le prédicateur, bien sûr, a raison, car le monde où nous vivons est effectivement celui qu'il décrit. Le Dieu qui le gouverne se cache. Il est rare que ce monde donne l'impression d'être régi par une providence bienveillante, bien rare aussi qu'il apparaisse clairement qu'une puissance douée de raison est derrière tout cela. Bien souvent, ce qui est sans valeur subsiste et ce qui en possède disparaît. Soyez donc réaliste, dit le prédicateur. Regardez les choses en face. Voyez la vie telle qu'elle est. Sinon, vous ne pourrez acquérir la véritable sagesse. Chers auditeurs, nous sommes nombreux à avoir besoin d'entendre cet avertissement. Car non seulement nous sommes attirés par cette conception de la sagesse, mais nous nous imaginons en plus que l'honneur de Dieu est aussi bien que nous le disons pas, qu'elle ne dit, nous pouvons pas le comprendre, et notre réputation qui est personnelle de chrétien spirituel que nous sommes, tout cela exige que l'on sache bien autour de nous que nous sommes déjà dans le poste d'aiguillage. Oui, parfaitement au fait aujourd'hui de tous les tenants et de tous les aboutissements des agissements de Dieu. Et nous finissons d'ailleurs par le croire réellement, car c'est là une pensée très réconfortante. Voyez-vous, nous avons la ferme conviction que Dieu nous a rendus capables de comprendre tous les desseins qu'il nourrit à notre intention et à l'intention de tous les nôtres. Et nous sommes certains de pouvoir discerner sans hésiter les raisons de tout ce qui pourra désormais nous advenir. Et puis, voilà que survient un événement extrêmement douloureux et parfaitement incompréhensible. Et nos heureuses illusions se trouvent ruinées. N'avions-nous donc pas accès au dessein secret de Dieu? Nous sommes blessés dans notre orgueil et nous avons l'impression que Dieu nous a fait un affront. Et si, arrivé à ce point-là, nous ne nous repentons pas, si nous ne nous humilions pas profondément d'avoir fait preuve de tant de présomption, eh bien toute notre vie spirituelle à venir risque de s'en trouver ruinée. Au nombre des 7 péchés capitaux de la tradition médiévale figure la paresse. La paresse caractérisée par un état opiniâtre de tristesse et d'apathie. Oui, cela arrive. Et c'est un état que l'on rencontre fréquemment dans les cercles chrétiens, même si vous n'y croyez pas. Le symptôme en est un mélange d'inertie spirituelle, de critiques cyniques à l'encontre des églises et de ressentiments dédaigneux vis-à-vis des initiatives que prennent les autres chrétiens. Et l'on découvre souvent à l'origine de ce genre d'attitude morbide et débilitante l'orgueil blessé de celui qui a cru tout savoir des voies de Dieu et qui a dû apprendre au travers d'expériences amères et déroutantes qu'il n'en était rien. C'est donc là ce qui risque de nous arriver si nous ne prenons pas garde au message de l'Ecclésiaste. Car la vérité, c'est que Dieu, dans sa sagesse, afin de nous apprendre à marcher par la foi et dans une constante humilité, nous a caché à peu près tout ce que nous aimerions connaître des desseins de sa providence, desseins dont nous savons qu'il est en train de les réaliser dans les églises et dans chacune de nos vies. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme qui est enceinte, eh bien tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait absolument tout. Chapitre 11, verset 5. Mais alors, qu'est-ce que la sagesse? Le prédicateur nous a aidés à découvrir ce qu'elle n'est pas. Mais nous aide-t-il à découvrir ce qu'elle est? Oui, bien évidemment. Ou du moins, nous donne-t-il quelques pistes de réflexion? Il dit « Crains Dieu et observe ses commandements » chapitre 12, verset 13. « Fais-lui confiance et obéis-lui, vénère-le, adore-le, sois humble devant lui, n'en dis pas plus que tu ne penses et que tu ne peux tenir lorsque tu lui adresses ta prière. » Chapitre 5, verset 1 à 7. « Fais le bien. » Chapitre 3, verset 12. « Souviens-toi qu'un jour, Dieu te demandera des comptes. » Chapitre 11, verset 9 et le chapitre 12, verset 14. « Aussi, n'accomplis pas même en secret des choses dont tu auras honte lorsque elles viendront en lumière au jour du jugement de Dieu. » Chapitre 12, verset 14. « Vis dans le présent et réjouis-toi pleinement. » Chapitre 7, verset 14. Chapitre 9, verset 7. Et le chapitre 11, verset 9. « Car les joies qui te sont données te viennent de Dieu, tout en condamnant la légèreté. » Chapitre 7, verset 4 à 6. L'Ecclésiaste n'apprécie visiblement pas la superspiritualité trop fière ou trop pieuse, faussement religieuse. Recherche la grâce de pouvoir travailler dur à ce que ta main trouve à faire. Chapitre 9, verset 10. Et réjouis-toi. Réjouis-toi de ton travail. Chapitre 2, verset 24. Chapitre 3, verset 12. Chapitre 5, verset 18. Et chapitre 8, verset 15. Donc, abandonne à Dieu les résultats et laisse-lui le soin d'en déterminer la valeur finale. car ta part à toi, c'est de mettre en œuvre tout le bon sens et l'esprit d'initiative dont tu disposes pour tirer parti des occasions qui te sont offertes. Chapitre 11, versets 1 à 6. Telle est donc la voie de la sagesse. Il est évident que ce n'est là qu'un des aspects d'une vie de foi. Car derrière tout cela, qu'y a-t-il ? En réalité, il y a la conviction que le Dieu de la Providence, qui se révèle indéchiffrable, qu'il est le même que le Dieu de la création et de la rédemption, qui se montre plein de sagesse et plein de miséricorde. Soyons donc assurés que le Dieu qui créa le monde dans sa merveilleuse complexité, le Dieu qui racheta son peuple pour le faire sortir d'Égypte et qui plus tard le racheta à nouveau, mais de manière plus extraordinaire encore cette fois, pour l'arracher aux griffes du péché et de Satan. Ce Dieu-là, il sait ce qu'il fait. Et ne doutons pas qu'il fait bien toutes choses, quand bien même nous ne verrions pas pour le moment sa main dans le cours des événements. Nous pouvons donc lui faire confiance et nous réjouir en lui, même lorsque nous ne pouvons discerner toutes ses voies. Telle est donc la sagesse dont Dieu nous rend sages en analysant tout cela. Nous pénétrons un peu plus la sagesse du Dieu qui nous la donne. Nous avons dit que la sagesse consistait à choisir les moyens les meilleurs pour parvenir aux fins les plus hautes. Donc, si Dieu nous a fait don de la sagesse, c'est parce que c'est pour lui un moyen de parvenir au but qu'il est fixé. Il s'est fixé ce but, c'est à savoir de restaurer et amener à la perfection ses relations avec les hommes, relations en vue desquelles, d'ailleurs, l'homme a été créé. Quelle est donc alors cette sagesse dont il nous fait don? Nous l'avons vu. Ce n'est pas un partage de toute la connaissance, mais une disposition de tout notre être à reconnaître sa sagesse, à nous attacher à lui, à vivre pour lui et la lumière de sa sainte parole et au travers de toutes les épreuves. Ainsi donc, chers auditeurs, ce don nous rendra plus humbles, plus joyeux, plus pieux aussi, plus prompt à saisir sa volonté, et aussi plus résolu à l'accomplir. Il nous permettra de nous sentir moins troublés, non pas moins sensibles, mais moins déconcertés qu'auparavant. Et cela par tous ces événements sombres et douloureux qui remplissent nos vies en ce monde déchu. Oui, le Nouveau Testament nous dit que le fruit de la sagesse, c'est la ressemblance au Christ dans la paix, l'humilité et l'amour. Jacques chapitre 3, verset 17. Et que la racine de la sagesse, c'est la foi en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18 et 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Ainsi donc, la sagesse que Dieu est prêt à accorder à tous ceux qui la lui demandent est une sagesse qui nous attachera à lui, une sagesse qui se manifestera par un esprit de foi et une vie de fidélité. Veillons donc, par conséquent, à ce que notre recherche de la sagesse soit bien une recherche de ces choses, et soyons attentifs à ne pas contrecarrer le sage dessein de Dieu en négligeant la foi et la fidélité au profit d'une connaissance qu'il ne nous est pas donné de posséder en ce moment. Je répète, le Nouveau Testament nous dit que le fruit de la sagesse, c'est la ressemblance au Christ dans la paix, c'est l'humilité et c'est l'amour, Jacques 3, verset 17, et que la racine de la sagesse, c'est la foi en Jésus-Christ, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18, et 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Ainsi donc, la sagesse que Dieu est prêt à accorder à tous ceux qui la lui demandent est une sagesse qui nous attachera davantage à lui, une sagesse qui se manifestera par un esprit de foi et une vie de fidélité. Veillons par conséquent à ce que notre recherche de la sagesse soit bien une recherche de ces choses, et soyons très attentifs à ne pas contrecarrer le sage dessein de Dieu en négligeant la foi et la fidélité au profit d'une connaissance qu'il ne nous est pas donné de posséder en ce monde. Chers amis, nous allons terminer par la prière et je vous mettrai un ou deux chants du passé. Prions. Ô Seigneur, qui daigne conduire et assister ceux à qui tu as fait la grâce de t'aimer et de te craindre, accorde-nous la protection de ta providence et affermis-nous pour jamais dans la crainte et dans l'amour de ton saint nom. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, Seigneur, à qui appartient la force et qui est l'auteur de tout bien et de tout de tous les dons parfaits. Ils viennent de toi, Seigneur. Donc imprime dans nos cœurs, ô Jésus-Christ, l'amour de ton saint nom. Augmente en nous la véritable piété et remplis-nous de toutes les vertus et nous y affermis par Jésus-Christ notre Seigneur bien-aimé. Amen. Et chers amis, je vous mets un ou deux chants du passé. Il y a plus de 50 ans de cela. Et à demain, Dieu voulant.
Choses cachées. Passe